un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des images extraordinaires qui ont tourné en boucle à l'époque et dont beaucoup se souviennent. Nous sommes en mai 2018. Mamoudou Gassama a 22 ans et vit à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Il vient d'arriver du Mali en France depuis tout juste 6 mois. Il est sans papier. Sortant de la gare du Nord alors qu'il se trouve vers Marx-Dormois, il tombe sur un attroupement de gens paniqués qui crient en regardant en l'air. Au balcon du quatrième étage de l'immeuble qu'il scrute anxieusement, un petit garçon de 4 ans est suspendu au balcon. Il ne tient qu'à un fil, celui de ses petits bras qui vacillent. S'il lâche, il meurt. Mamoudou Gassama, qui dira ensuite avoir fait ce geste simplement car il aime beaucoup les enfants, n'hésite guère. Les risques qu'il prend pour sa vie et pour sa situation administrative sont énormes. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un sort son téléphone et le filme. On voit alors Mamoudou escalader la façade jusqu'au premier balcon, puis se hisser en quelques secondes, à main nue, de balcon en balcon, étage par étage, dans le vide, jusqu'au balcon où se trouve l'enfant. En bas, on devine la foule muette qui retient son souffle. Mamoudou attrape le gamin par le bras et le ramène sur la terre ferme de son propre balcon. Les cris de soulagement fusent de partout. Surnommé Spider-Man par les internautes qui vont partager ces images sur tous les réseaux, le jeune homme ne voit rien que de très normal dans le fait d'avoir grimpé et sauvé ce garçon. Il est vrai qu'il fait pas mal de sport et va à la salle, c'est l'avantage, dit-il. Lui devient un héros. Mais combien sont-ils, ces hommes et femmes invisibles, modestes, précaires ou sans papier, qui n'ont pas la chance d'être filmés alors qu'ils accomplissent des actes extraordinaires qu'ils jugent normaux? Tout de suite, voici deux hommes qui n'ont pas été reçus à l'Élysée comme Mamoudou, mais ne s'en plaignent pas. Deux journées extraordinaires par Elodie Maillot.
Je m'appelle Rabah Sultani, j'ai 45 ans. J'ai trois garçons, 10 ans, les jumeaux, et 15 ans, l'aîné. J'ai vécu en Algérie pendant 40 ans. J'ai travaillé 17 ans comme pompier en Algérie, dans l'état de Kabylie, à Béjaïa exactement. J'étais bien, j'ai une maison de campagne, j'ai une maison en ville, j'étais très stable. Mes enfants, ils étaient dans une école privée. En plus, c'est pas donné au bled, c'est pas donné à une école privée, c'est pas comme ici. C'est trop cher. Quasiment chaque mois, je dépose ma paye sur les enfants. C'est très important pour moi. Je veux faire mieux pour mes enfants. Moi, ma jeunesse, j'étais dans une école publique. Je sais qu'est-ce que c'est qu'une école publique en Algérie. En 2018, comme chaque année, on a préparé des vacances en famille. On se retrouve ici en France jusqu'à un moment où est-ce que mes enfants ne veulent pas rentrer en Algérie. Mon fils aîné, il m'a dit, moi, pas question que je rentre en Algérie. Au début, j'ai essayé de négocier quand même. Je ne laisse pas tout. Moi, j'ai investi au bled. Et tout d'un coup, il m'a changé mon programme. J'ai essayé de négocier, mais pas question. Donc, j'ai bien réfléchi. Pourquoi je vis, pourquoi je travaille, pourquoi je fais ça, pourquoi. C'est pour eux beaucoup plus. Et de faire plaisir à mes enfants, c'est la moindre des choses. Et j'ai accepté. Ma femme aussi. Et après, on a essayé de discuter. Moi et ma femme, elle m'a dit, tu travailles, et moi je replonge dans les études. Jusqu'à où est-ce qu'on va y avoir les papiers. Lorsqu'on est sans papier, quand même, on va éviter beaucoup de choses. Par exemple, on rentre dans des grandes gares, Montparnasse, ou bien Gare du Nord, Gare de Lyon. Je ne vais jamais tout seul. Je prends mes enfants avec moi. J'essaie de passer inaperçu beaucoup de choses. Par exemple, il ne faut pas s'habiller des habits remarquables de loin, ou bien la coupe, ou bien la barbe, tas de choses. Il faut être toujours tout le temps propre, tout le temps habillé correctement. J'évite de faire des soirées chez des amis ou bien des soirées dans des endroits de soirée et tout ça. J'évite de marcher en groupe. Avec la moto, je suis carré, je respecte le code de la route. Ma moto, elle est propre. L'assurance collée à sa place. Voilà. Donc, j'ai jamais eu d'incident. La chose la plus difficile, lorsqu'on n'a pas de papier, c'est le travail. On fait des petits boulots. Dès mon arrivée, j'ai travaillé. J'ai fait de la livraison, j'ai fait le ramolage, le bâtiment, j'ai fait le montage des mobiliers, j'ai fait la plomberie, j'ai fait un peu de tout jusqu'à où est-ce que je me retrouve livreur Uber Eats. Je fais la livraison avec la moto, la livraison des repas. Pour moi, c'est un million parce que j'étais quand même dans une classe sociale un peu. J'ai ma place dans la société. J'étais pompier polyvalent. La période estivale, je me retrouve comme un chef post-secours sur les plages de Béjaïa. J'ai fait la formation plongeur. Je rejoins l'équipe d'intervention. J'étais un numéro important. Je deviens un numéro de réserve ou bien de quelque chose. Ça fait mal. Les joueurs titulaires, ils n'aiment pas jouer sur le bord. En plus, je sais que j'ai des choses à faire pour la société. J'ai des choses à faire, je peux rajouter un plus. La preuve, le 5 février, à 18h, j'ai fait un plus. J'ai réussi de sauver la vie de deux personnes en même temps. Au 5 février, à 18h, j'ai pris une livraison vers la gare d'Aulnay-sous-Bois. Je vois une femme au milieu de la chaussée à cette heure de l'heure. Elle était à genoux, les coudes par terre comme ça. Elle crie et moi j'étais de loin, j'ai vu le détresse en elle. Elle se met en boule. Elle était arrêtée à côté d'un feu tricolore. Elle était au milieu de la chaussée, il y a des voitures qui passent gauche-droite. Elle lève la main pour demander le secours. Moi, à mon arrivée là-bas, j'ai arrêté. Elle s'est levée la tête, elle m'a dit « Monsieur, monsieur, aide-moi ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez ?» Elle m'a dit « J'ai des contractions, je vais accoucher ». Je n'ai pas hésité, je n'ai pas réfléchi deux fois. Les passants, c'est quasiment, ils passent comme si rien n'était. Oui, c'est comme ça. Les gens passent déjà. Au début, elle était au milieu de la chaussée. Tout le monde passe. Personne ne s'arrête pour elle. J'étais étonné. Comment on laisse ces personnes? Elle était. Elle crie. Ça se voit, le détresse en elle. Ça se voit de loin. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peur. Ils ont. Vu qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout ça. Il y a des pièges que les gens font comme ça. Je ne sais pas. On a géré, il y aura tout le monde. Je vous assure, c'était passé sur le trottoir à Béjaïa comme ça. Il y aura tout le monde qui participe. La dame, elle me dit, ne me lâche pas, ne me laisse pas tomber, tout ça. Je lui ai dit, t'inquiète, j'ai une sœur, j'ai une maman, j'ai une femme. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber. Je l'ai aidé pour qu'elle traverse. On s'est mis sur le trottoir. J'ai appelé les pompiers. J'ai essayé d'appeler la police. J'ai pas réussi de les avoir. Tout d'un coup, comme ça, elle m'a dit, ça y est, le bébé arrive. Et j'ai regardé, elle a commencé à perdre des os. Moi, je me suis dit, je peux le faire sans matériel. J'ai pas le choix, je dois travailler avec les moyens de bord, sur le trottoir. Déjà, elle était sur la meilleure position d'accouchement. Elle était à genoux, à quatre pattes, comme on dit. J'ai pensé à rien. J'ai pensé à rien de la sauver. Moi, je me suis dit, même elle est malade, parce que j'ai pas les gants, j'ai pas le matos qu'il faut. Mais moi, j'ai 45 ans. Mais le bébé, c'est un nouveau-né, il a toutes ses chances. Moi, je serais contaminé ou bien malade. Mais pour un nouveau-né, il a toutes ses chances dans la vie. Mon objectif, c'est de sauver le bébé beaucoup plus. En 2014, j'ai fait accoucher une maman en Algérie. Donc, j'ai pas hésité. J'étais pompier, c'est normal, ça arrive. J'ai enlevé mes vestes. Je couvre la maman pour son intimité et tout ça. Et je couvre l'intimité de la dame. La deuxième veste, je l'ai préparée pour que je reçoive le bébé. Et de garder sa température, c'est très important. La maman, elle a commencé à crier. Je lui ai dit, tu peux pousser pour qu'il sorte. Hein? En plus, c'est quelque chose de naturel, l'accouchement. Elle m'a dit, ok, elle a fait un coup. La maman, elle était forte. Il y a la tête du bébé qui sort. Déjà, j'ai vérifié, le bébé n'est pas cintré. Et des fois, le bébé, il y a le cordon qui tourne au coude. Il était magnifique. Moi, il était en forme, il a crié déjà. Lorsqu'il a crié le bébé, j'étais content. Le bébé en forme, la maman en forme. Il n'y a pas mieux que ça. Hein. C'était émouvant de recevoir ce bébé, de le prendre et tout ça. C'est émouvant. On sort un vivant dans un autre. Quand même, c'est quelque chose. C'est de la magie, ou bien quelque chose comme ça. J'avais les larmes aux yeux. Un de plus. Un de plus, un Français de plus, ça fait plaisir. En plus, il était en bonne santé. J'ai essayé de l'essuyer avec ma veste. Et une dame qui s'est arrêtée avec une voiture, elle m'a donné la couverture de son bébé. Tout va bien, j'attends l'arrivée des pompiers. J'ai demandé aux pompiers si je peux couper le cordon. Ils n'ont pas accepté. Je n'ai pas insisté. Il m'a dit, vous êtes son papa? J'ai lui dit non. Il m'a dit non, c'est interdit. Ils ont coupé le cordon. J'ai pris le bébé. Lorsque je l'ai attrapé, j'avais les larmes aux yeux. J'aurais aimé de le prendre avec moi. Je ne veux pas le lâcher. Hein. C'est un gros bébé, c'est un beau bébé. En plus, il était dynamique, il bouge et tout ça. Il était en bonne santé. J'étais content. J'étais content pour eux. Elle se retrouve au milieu de la chaussée d'accoucher. Peut-être qu'elle a accouché à l'hôpital, elle aura des complications. Hein. En plus, la chance qu'elle a, elle a évité la péridurale. Lorsqu'ils ont parti les pompiers, j'ai senti un peu la solitude. Le soir, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé, l'émotion. Si c'était mal déroulé, si c'était, il y avait des complications, c'était tas de choses. Vu ma situation, j'ai pas de papier et tout ça. Je me retrouve au bled, je laisse mes enfants. C'est quand même, c'est délicat. Ça m'a travaillé. C'était mal passé. Imagine, à mort-née. Après, j'ai pas dormi. Ma femme, elle me dit, dors, demain, tu vas y aller la voir, ça va te calmer, tout ça. Effectivement, le lendemain, j'ai été direct de voir les pompiers, où est-ce que vous avez déposé la dame. Ils m'ont dit à Jean Verdier, l'hôpital, Jean Verdier, à Bondé. J'ai pas hésité, j'ai été direct la voir. À l'hôpital, ils m'ont demandé le nom et le prénom de la dame. Moi, je n'ai pas le nom. J'ai lui dit une femme, elle a 34 ans. Je me rappelle son âge. L'infirmière, elle plaisante, elle m'a dit, premier étage, c'est 34 ans. Toutes les femmes, elles ont 34 ans. Et après, j'ai lui dit, la femme qu'elle a accouchée sur le trottoir hier, à 18h, ils l'ont ramenée ici, les pompiers. Ils m'ont ramené à la voir dans la chambre. Je l'ai vu, les larmes aux yeux, de son côté, de mon côté, la chair de poule, de la voir comme ça. Et le bébé, il était magnifique. On a parlé 2-3 minutes, je ne veux pas la déranger, comme elle était fatiguée pour qu'elle se repose. Le soir, j'ai pris ma femme avec moi, on est revenus. On a pris un bouquet de fleurs et tout ça. On a trouvé même ce marais là-bas. On a parlé. D'ailleurs, on est en contact jusqu'à maintenant. En plus, le bébé, il a pris mon nom. Le papa, il l'a appelé Rava. Et il m'a dit, je vais l'appeler comme ça pour que lorsqu'il grandit, il va écouter son histoire. Voilà. Et il a pris mon prénom. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est un être vivant. J'ai participé qu'il soit vivant. Demain, peut-être, il soit notre président. Peut-être qu'il soit quelque chose dans la société. Il va faire un chercheur ou bien il va rajouter un plus pour la société. J'étais content de participer à ça. C'est pas la mienne, cette histoire. C'est l'histoire de la maman et de Rabat aussi. Rabat, nouveau-né, hein. Ça fait une année que j'ai entamé les démarches pour mes papiers. Si j'ai les papiers, je ne réfléchis pas deux fois pour que rentrer dans une caserne de pompiers. Parce que les pompiers, c'est une vacation.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Jouad Mounir, j'ai 43 ans. Marié, deux enfants. Je suis chauffeur de taxi sur Nantes. Ça fait 3 ans et demi. Avant, j'étais cuisinier pendant, je pense, une quinzaine d'années. Le 14 février, je me suis réveillé le matin à 6h30. C'était une deuxième jour de grève contre la concurrence déloyale des VTC sur la ville de Nantes. Les VTC, ça veut dire les véhicules touristiques avec chauffeur privé. Et contre la nouvelle réforme de la caisse maladie. C'était 2 jours de manifestation. On a essayé de bloquer l'accès à l'aéroport. Ça gênait pas mal des voyageurs, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de navette. Les gens, ils marchaient à pied pour accéder à l'aéroport. Après 2 jours de grève, on était un peu épuisés. J'étais prêt à rentrer chez moi, prendre une douche et dormir. Et parce que c'était une journée, on est tout le jour debout, on se déplace beaucoup, tout ça. On n'a qu'une seule envie, c'est rentrer chez nous, dormir. Mais il y a une dame qui sortait de l'aéroport qui nous a dit qu'il a raté son vol pour aller à Toulouse. Elle était stressée même, parce que c'était un peu spécial, parce que c'était prévu qu'il aille au CHU de Toulouse vers 7h du matin pour donner un rein à son frère qui est au bloc et attendait. Du coup, il y a ma collègue qui a proposé s'il y a quelqu'un qui peut la ramener à Toulouse parce que c'est quelque chose de vital et c'est urgent. Je me suis proposé pour la ramener. Franchement, c'était prévu que je rentre chez moi parce que j'ai pas mal de choses à gérer. Mais à ce moment-là, franchement, j'ai pas trop réfléchi. J'avais envie de rendre un service à cette dame-là. Je sais que c'est Toulouse, c'est loin, c'est à peu près 600 km. Mais j'ai pas trop réfléchi comment ça va se faire, est-ce que ça va le faire, sur la route, le retour. J'ai même pas réfléchi. Je me suis proposé, je dis oui, je la ramène. J'ai ouvert la porte de ma voiture et c'est parti. Avant de partir, de toute façon, la dame, elle était au courant qu'en quoi la course, elle est papillonne. Avant qu'elle monte dans la voiture, parce qu'on a décidé de la ramener gratuitement. Tous les chauffeurs de taxi, on a décidé de faire une cagnotte pour la personne qui la ramène. Une course pour Toulouse, il y a 6 heures aller et 6 heures retour. Hein. Donc, sur la route, j'ai prévenu ma femme qu'en quoi je pars loin. Elle me dit « Ah ouais ?» Je dis « Oui, je pars à Toulouse, donc je ne rentre pas ce soir, je rentre demain matin. » Et je lui dis « Je t'explique après. » Je ne voulais pas rentrer dans les détails avec elle, tout ça. J'ai l'habitude, quand il y a un client dans la voiture, on est professionnel. On essaie d'éviter de parler avec la famille, tout ça, sauf s'il y a quelque chose d'urgent. Donc, il est monté dans la voiture, franchement, il n'a pas arrêté de me remercier. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je lui dis, il n'y a pas de problème, madame. Donc, c'est une bonne sœur qui vient d'un petit village à côté de Lorient. Elle était émue. Il m'a parlé d'un miracle pour elle. Un miracle, pour moi, ce n'est pas un miracle. Donc, il ne faut pas non plus, ça, moi, je suis comme ça, il ne faut pas non plus exagérer. Pour moi, c'est un geste, c'est avec le cœur qu'on fait ça, c'est aider l'autre. Mais pour elle, c'était vraiment un miracle. Et bien sûr, elle était stressée. La bonne sœur, elle était stressée ce soir-là, parce que le lendemain, il attendait à 6h30 à l'hôpital. Il va se séparer d'un organe, il va donner un organe à son frère. C'est un très, très bon exemple. Il est très courageux, bien sûr. Même aujourd'hui, je suis désolé, donner le sang aujourd'hui, les gens ils réfléchissent mille fois avant de le faire. Je ne me sens pas comme un héros, je me sens comme quelqu'un qui a un cœur, qui rend service à l'autre. C'est du partage. Moi, j'étais au Maroc, donc je suis venu en France pour terminer mes études. À l'âge de 19 ans, il y a, je me rappelle bien, un chef cuisinier qui est sur la ville d'Angers, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de chance. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et il reste des gens qui font des choses bien. Vraiment, c'est des patrons hors normes, si vous voulez. Il y a le côté humain plutôt que le côté patron. C'est des aides qu'on n'oublie jamais. Et ça nous aide à s'intégrer, ça nous donne de la force. Et on essaye de redonner. C'est l'expérience dans notre vie. On a reçu notre dose de partage, de valeurs, de principes. Du coup, à certains moments, il faut les partager, ces valeurs. Ça ne sert à rien qu'on les garde en nous. Quand on fait quelque chose de bien, on est heureux, on ne calcule pas. À certains moments, il faut oublier, je pense, le côté financier, le côté, l'aspect argent. Il y a d'autres choses plus intéressantes que ça. Ça, c'est mon principe. Malheureusement, ce n'est pas le principe de tout le monde aujourd'hui. Au moins, on donne l'exemple à nos enfants pour qu'ils fassent des bons gestes et rendent service à l'autre. Ça, c'est très important. Donc, je suis parti vers 17h30, 18h. On est arrivé là-bas vers minuit. Ils m'ont proposé une chambre d'hôtel. La bonne sœur et une copine à elle. Et j'ai refusé. Il faut absolument que je rentre, car j'avais les enfants à gérer pour les ramener à l'école le matin. Et après, j'ai pris un petit café, un petit repas léger avec la dame. Et j'ai fait le retour tout de suite. 15 minutes après, j'ai repris la route pour rentrer à Nantes. Je suis rentré vers 7h du matin, je pense. L'aller, ça a été, si vous voulez, l'aller, c'était très bien. Vers la fin, c'est vrai, j'étais un peu fatigué, donc j'étais obligé de me concentrer sur la route. Et c'est le retour, c'était très, très, très dur, le retour, parce qu'on sort deux jours de manifestation, on était épuisé. Il y a certains moments où j'étais très fatigué, je me suis arrêté dans une station, j'étais allongé, et là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Et là, il y a des choses qui tournent dans ma tête. J'étais très content déjà, parce que ça fait plaisir de vivre des moments comme ça. En arrivant, j'essaie de dormir un petit peu, 2h, 3h, je pense, le matin. À 11h, je vois le téléphone qui sonne, qui n'arrête pas de sonner. Je ne réponds pas, donc je dormis tout ça. Je croyais que c'est des clients qui m'appellent pour réserver ou quelque chose. Donc, je me suis réveillé, je regarde mon portable, je vois plein d'appels. J'ai reçu plein de messages, plein d'SMS. Si je ne me trompe pas, c'est des centaines et des centaines. Hein, donc, ça m'a beaucoup touché. Hein. C'est là où on réalise un petit peu, si vous voulez, ce qu'on a fait. Même ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Je n'ai pas réfléchi ni pour l'argent, ni pour d'autres choses, quoi que ce soit. Et c'est là où on commence à réaliser que ça prend l'ampleur. Il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a demandé est-ce que c'est possible de fixer un petit rendez-vous juste pour vous voir, pour vous remercier. Parce que ce que vous avez fait, c'est énorme. Et il m'a donné une enveloppe. J'étais trop gêné de la prendre, tout ça. Il m'a dit, il faut la prendre, tout ça. On a fait une petite cagnotte pour vous aider, tout ça. Et c'était très, très sympa. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est des gens qui étaient touchés par rapport au geste. C'est vrai, j'étais ému. J'étais plutôt fier de rendre un service à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais j'ai réalisé après que c'était beaucoup, si vous voulez. C'était 1200 km aller-retour, plus 13 heures de route. C'est vrai, le lendemain, j'étais très fatigué, tout ça. J'ai perdu une journée de travail, tout ça. Mais c'est pas grave. Quand on fait quelque chose de bien, on est heureux, on calcule pas. Même pour mes enfants, pareil, ils sont trop fiers de leur papa. Chaque fois, ils me le disent. Ils racontent ça à leurs copains, tout ça. Et ça m'a beaucoup ému, ça. 4-5 jours après, la dame m'a appelé et m'a donné des nouvelles. Ça s'est bien passé, l'opération de greffe. Donc elle était hyper contente, qui m'a beaucoup remercié. Hein, donc ça, c'est très important pour moi. Il m'a dit qu'il va revenir en avion à Nantes pour rentrer chez elle. Ce jour-là, je l'ai attendu à l'aéroport pour la ramener chez elle. Et je dis, ça se trouve qu'elle est fatiguée, tout ça, pourquoi pas rendre le service jusqu'au bout? Pourquoi pas? Mais je n'avais pas son numéro de téléphone. Et je ne l'ai pas croisé, malheureusement. Je ne l'ai pas croisé. On a installé un peu une petite amitié entre nous. On a commencé à parler, à discuter pendant le trajet, tout ça. Si je l'ai croisé, je lui ai dit, allez, montez, je vous ramène chez vous. Ça, c'est sûr et certain. Gratos, ouais. Mais je ne l'ai pas croisé.
C'était deux journées extraordinaires, un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Eric Lancien. Merci à Rabat, à Mounir, à Anne Bertrand, à Stéphane Martin et à l'antenne de France Bleu Nantes. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Je vous signale que le revers de la médaille, ou ce que coûtent les médailles olympiques aux athlètes, c'est la nouvelle série en 5 épisodes d'Adila Benedjaizou, proposée par les Pieds sur Terre, est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de France Culture et l'appli Radio France. Inutile de vous dire que je vous la conseille. Mahar dunya.